cette table ronde, donc, qui a pour thématique les dragons, les dragons. On va parler des dragons. Donc nous avons autour de la table pour aborder ce thème donc Fabrice Collin, notre invité surprise mais néanmoins bienvenue. Donc Fabrice, que vous commencez à connaître dans ce festival, qui a à la fois travaillé en littérature adulte, littérature jeunesse. Voilà, tu as un croissant aussi ?
Non, c'est pour moi.
D'accord.
J'aurais pas été contre.
Bah oui. Ah oui, café littéraire, on aurait pu prévoir les croissants. Ah bah tiens, hein, c'est à suggérer pour l'année prochaine. Donc Fabrice Collin, qui a travaillé à la fois en jeunesse, en adulte, qui a exploré de nombreux registres de la fantasy, et éventuellement d'autres, mais là on est plus ciblé effectivement sur la fantasy et ses personnages, puisque les dragons sont des personnages de fantasy. Xavier Bascourt, qui lui fait un travail à la fois sur l'illustration et le texte, qui a aussi abordé le domaine de la fantasy par donc deux biais, l'écrit, le visuel, et qui dans Dana, Reine des Dragons, justement, marie les deux et on sera amené à en parler avec lui. Éric Witzel, qui également est auteur de nombreux romans de fantasy, qui a aussi contribué à des anthologies, qui par ailleurs a des goûts sur la musique et a aussi illustré musicalement des œuvres d'autres auteurs, et qui ce matin, je voulais qu'on parle avec lui plus précisément donc de son roman Les Dragons de la Cité Rouge, donc qui était paru en 2009, avec là aussi toute une problématique axée autour des dragons. Et Marie-Charlotte Delmas, qui a un parcours extrêmement varié, a fait de la mise en scène, un peu de chanson, enfin beaucoup de choses. Et oui, voilà. Et ensuite donc l'écriture. Non, mais peut-être que ça t'a nourri aussi. Hein, donc voilà, l'écriture et depuis quelques années un travail énorme de recherche sur tout ce qui est mythe, tradition populaire, avec notamment les trois volumes du Grand Légendaire qui avaient été primés donc en prix spécial des Imaginales. C'était il y a 2007. Voilà, hein, le Grand Légendaire de France. Donc quelque chose d'absolument passionnant, un travail de compilation de contes, de légendes, de mythes, et qui va justement nous apporter son regard sur la figure du dragon. Alors justement, Marie-Charlotte, qu'est-ce que c'est qu'un dragon dans la mythologie populaire, dans l'imaginaire populaire, d'après ce que toi, tu as pu en récupérer ?
J'essaie d'attraper le fil. Excusez-moi, je suis fatiguée. Il n'y a pas de volée dans ma chambre d'hôtel. J'arrive pas à dormir. Voilà. Alors, c'est pas comme ça que je vais reposer la question, si tu veux bien, parce que en fait, les dragons populaires sont assez récents. Et un dragon au départ, le dracon grec, c'est un serpent. Et donc, pendant très très longtemps, en tout cas dans l'Antiquité, quand on parle dragon, on parle serpent. Alors, on parle serpent et on parle avec Hérodote, qui est le premier à leur donner les ailes de chauve-souris. On parle serpent ailé. Voilà. Le dragon tel qu'on le voit aujourd'hui ou tel qu'on se le représente aujourd'hui, c'est-à-dire ce saurien aptère ou avec des ailes, deux pieds, quatre pieds, enfin en tout cas de type saurien qui crache du feu. Tout ça est assez récent et s'est constitué en tout cas au fil du temps. Donc ça, c'est l'image du dragon qu'on trouve dans le livre que je viens de terminer, pub, et qui va sortir au mois de septembre, qui est un livre sur l'histoire du dragon en Occident, puisque la France est le premier pays au monde en termes de nombre de dragons et passe bien avant l'Asie. Donc, une première partie d'études et d'anatomie, et c'est suivi d'un légendaire, justement, sur, parce que j'aime bien reprendre les textes dans leur jus, tels qu'ils ont été collectés ou écrits dans les chroniques du XVIIe ou dans les... dans des collectages beaucoup plus récents. Et donc, voilà. Et donc, derrière, il y a un légendaire de Suisse, France et Belgique, parce qu'il y a des particularités. Mais pour cette première partie, je suis allée rechercher les premiers dragons de l'humanité. Donc, les premiers dragons de l'humanité, on les trouve dans le poème de la création assyro-babylonien, Donc, des tablettes qu'on a retrouvées et qui ont 2500 ans d'âge, enfin, qui sont de moins de 2500 ans avant notre ère, où il est question où la mer océan, créatrice des dieux, va créer les premiers dieux dragons, les premiers dieux Léviathan, etc. Et c'est bien parce que dans ces poèmes assyro-babyloniens, on crée les premiers dragons, que, évidemment, les scripteurs, les différents scripteurs sur un siècle et demi de la Bible vont se réemparer de ces dragons, de ces basiliques, de ces léviathans, etc., dont ils vont faire des animaux, donc de ces dieux, comme d'habitude, tout dieu devient démon dans la religion qui suit celle où il était dieu. Donc ça, c'est une variable. Voilà, et donc c'est ce qui va faire du dragon un animal diabolique. Ensuite, je vais peut-être pas monopoliser la parole là-dessus. On reparlera peut-être de l'anatomie du dragon, des dragons christianisés. Voilà, parce que si le dragon est important dans notre société occidentale et en particulier dans cette ère chrétienne, c'est parce qu'évidemment, reprenant les mythes grecs, gréco-romains autour des dragons et de la fondation des villes, les premiers évêques vont devenir, parce qu'il faut absolument qu'ils soient des héros aussi, comme ceux de l'ancienne religion, c'est normal, donc vont devenir ce qu'on appelle les saints sauroctones, c'est-à-dire des saints qui sont tueurs de dragons, et donc là, on a dans la légende dorée, une infinité de récits, y compris avec le saint le plus populaire qui n'a jamais existé, d'ailleurs, qui est le plus fictif, qui est Saint-Georges. Voilà. Mais je ne veux pas monopoliser, donc on va peut-être faire un petit tour, et on parlera des dragons populaires après.
D'accord. Dragons pas populaires. D'accord. Alors, Fabrice, dans Le Maître des Dragons, toi, comment est-ce que tu les présentes, les dragons? Quelle est ta vision du dragon?
Le dragon, c'est un petit peu la créature emblématique du récit de fantasy. Quand on explique à des enfants, c'est souvent la première créature qui vient à l'esprit. Donc c'est devenu un symbole un peu de la fantasy. Voilà, on le retrouve dans les intitulés de table ronde pour faire venir les gens. Le dragon est assez populaire quand même comme créature, il fascine. Dans la continuité de cette idée-là, moi, les deux volumes qui sont là, donc La Malédiction d'Aldhaven et Le Maître des Dragons, sont des romans, sont pas vraiment des uchronies, mais ils présentent des histoires parallèles, on va dire, donc avec un arrière-fond historique qui est assez présent et important. On n'est pas dans un univers totalement de fantasy, on n'est pas dans un univers imaginaire, on est dans la Nouvelle-Angleterre au XVIIIe siècle, mais c'est quand même une Nouvelle-Angleterre parallèle. Et alors, dans les montagnes, il y a des dragons, et en fait, leur rôle, il est notamment, bon, ils ont un rôle utilitaire, dans l'histoire, ils apparaissent, mais ce qui m'intéressait, c'était surtout de les présenter dans un... Comment dire, on a un cadre de lutte religieuse en fait entre une église très très puissante et puis des forces plus païennes, on va dire, avec notamment un personnage de sorcière qui est central. Et l'église tente un petit peu comme dans la réalité d'imposer son histoire au monde et de dire le monde a été créé de telle façon, etc. Bon. Et les dragons, ça les embête beaucoup. Il y a notamment un personnage de chercheur, de savant qui s'appelle Dorchester dans ses romans, qui lui a découvert des squelettes de dragons. Donc c'est quasiment une sorte d'archéologue, et les dragons jouent un petit peu le rôle de dinosaures, sauf qu'ils sont encore là en plus, donc c'est vraiment difficile de nier leur existence. Mais lui, il travaille sur justement la datation des os, des ossements de dragons, pour dire voilà, ce que raconte l'Église, c'est n'importe quoi. Le monde existe depuis plus longtemps, et les dragons, dans votre récit de création, ils ont pas leur place, ou ils contredisent les postulats de la religion de base, quoi. Donc ils sont, je les présente sous un angle pas trop mythologique, mais plutôt presque zoologique. voilà, c'est un petit peu des pseudo-dinosaures. Ils sont encore là. Il y a quelques personnes qui arrivent à les maîtriser, à les comprendre, qui s'intéressent à eux. Il y a des ossements, il y a des façons de les dompter. Il y a certaines personnes qui ont un lien avec certains dragons, et donc c'est des choses qu'on retrouve jusque dans Avatar récemment. Voilà, c'est des choses assez classiques, hein. Moi, j'ai pas essayé, en l'occurrence, dans ce récit-là, de faire quelque chose d'absolument incroyable et nouveau par rapport aux dragons. Ils ont un rôle relativement classique, quoi.
D'accord. Eric, donc dans Les Dragons de la Cité Rouge, là, on a un prince héritier qui a été enlevé. La rançon, c'est une épée magique qui retient prisonnière les âmes de trois dragons qui avaient, quelques centaines d'années auparavant, failli détruire le royaume en question. Et on a un chasseur de primes, donc qui évolue et qui lui est ami avec un dragon, hein, qui a été estropié dans un combat. Et donc y a un peu deux visions qui s'affrontent, et tu vas peut-être nous en parler, parce que y a la vision du dragon mauvais, donc ceux qui sont enfermés dans l'épée qui veulent nous détruire, et puis il y a ce dragon qui est beaucoup plus gentil, qui est ami d'un homme. Donc est-ce que les dragons sont-ils forcément toujours mauvais, et comment est-ce que tu as traité ça dans ton roman?
D'abord, je voudrais dire que je suis impatient de voir ton prochain bouquin sur les dragons, parce que j'ai beau avoir deux dragons à la maison, trois maintenant puisqu'ils sont reproduits, j'ai du mal à les faire parler pour savoir exactement d'où ils viennent. Non, sérieusement, des dragons mauvais, des dragons gentils, je sais pas. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que pour moi, les dragons dans un récit d'aventure, c'est la troisième dimension. Ils ajoutent la troisième dimension. Moi, ça me fait penser tout bêtement à des avions. J'ai des images de combats aériens, et voilà, c'est une passion que j'ai. Et puis surtout, voilà, cette troisième dimension, ça ouvre tout de suite l'aventure, ça ouvre la possibilité de se déplacer, ça élargit le décor, et du coup, ça l'enrichit. Donc c'est vers ça que je tends quand je pense à l'idée de dragon. C'est ça que je cherche à mettre en valeur. Alors effectivement, il y a les trois dragons dont tu as parlé. Il y a Arcane qui est le compagnon de ce chasseur de primes, qui est lui aussi, tous les deux sont des sortes de, pas tout à fait de paria. Enfin, le dragon était un paria, il a été rejeté par son clan. Le chasseur de primes l'a libéré en brisant quasiment littéralement ses chaînes, en lui faisant comprendre que le destin qu'il acceptait d'être un réprouvé, d'être mis au banc de sa famille, il devait aller contre ça, aller contre les traditions et vivre ce qu'il avait à vivre. Donc ils se sont rencontrés sur cette libération-là, cette libération réciproque. Bon, alors maintenant, c'est un dragon un peu âgé qui n'arrive plus à cracher du feu, et on ne sait pas trop pourquoi pour l'instant. La créature, la succube qui accompagne aussi, qui est le troisième larron de la bande du chasseur de primes, passe son temps à se moquer de lui parce que c'est un vieux machin ronchon qui parle un petit peu trop bien en mettant des jolis mots dans sa bouche. Alors ça a tendance à l'agacer, puis surtout qu'il ne peut pas cracher le feu. Donc voilà, c'est considéré comme une forme de castration avec laquelle elle s'amuse beaucoup. Alors méchants, mauvais, non, ce sont des êtres vivants. Je les ai fait intelligents, je les fais parler, et donc forcément, comme tout être intelligent et vivant, ils sont ambigus, puis il y en a qui sont plus sympas que d'autres.
Xavier, dans Dana, Reine des Dragons, là, on a une autre vision, hein, puisqu'on est déjà, on se situe sur un album illustré qui est destiné à de jeunes enfants. Hein, il peut être aussi lu par des adultes, hein, mais une vision un peu différente. Je vous montre la couverture, donc avec voilà, le petit dragon derrière. Et donc ici, nous avons en fait, dans la vallée des dragons, il y a un bébé dragon qui vient de naître, avec toute une petite problématique. Et alors, il a deux amis, il a Terry le lutin, Cyrielle la fée. Donc on a toute une aventure qui se déroule, et où on sent que derrière, il y a un message autour de la place de l'homme dans son environnement, peut-être aussi quelque chose sur le thème de la différence. Est-ce que le dragon dans Dana a été quelque part une métaphore pour faire passer des idées, ou...
Oui, tout à fait. En fait, c'est le premier volet d'une série d'albums. Et dans chacun des contes qui va être retrouvé dans cette série, où Aaron, donc le bébé dragon, le lutin et la fée vont vivre différentes aventures avec tout un message. Donc c'est un album en fait vraiment tout public. Et c'est vrai que le lectorat, sur le retour que je peux avoir, il est autant adulte en fait qu'enfant. Et c'est vrai que là, le dragon est un peu, quelque part, un prétexte, au même titre que la peur du loup, c'est la peur du dragon, mais vu du point de vue du dragon. Donc ça va être plutôt les créatures magiques qui ont peur de l'être humain et qui lui font des reproches, qui ont du mal à l'accepter, puisque le but de cette histoire, c'est que le bébé dragon, lui, vient de naître et rend triste une dragonne qui ne peut plus avoir de petits, puisque son époux a été tué par l'un des derniers hommes. Et donc, ce bébé dragon part à la recherche dans le pays des glaces pour retrouver un œuf pour la dragonne, mais le problème, c'est que dans l'œuf, ben, ça sera un bébé humain. Et donc, il doit essayer de se faire accepter. Donc, c'est un peu c'est une leçon sur l'acceptation de la différence, sur l'action qu'a eu l'homme sur l'environnement et qui s'est fait détester aussi par toutes les créatures magiques. Et au fil des albums, en fait, on va retrouver à chaque fois un message différent et qui passe très bien au niveau des enfants de façon un peu, comment dire, pas consciente, en fait. Donc voilà.
Oui, je pense que tu voulais réagir.
Quelque chose que disait Fabrice et Eric sur les ossements, par exemple. Ben effectivement, c'est parce que on a retrouvé, alors j'y étais pas, hein, mais c'est parce que de nombreux ossements de mammouths ont été retrouvés, voire aussi des ossements d'animaux préhistoriques. Et Hérodote en cite déjà, donc ça remonte loin. Évidemment qu'il les trouvait aussi. Que l'hypothèse des dragons a été confortée, légitimée par ces découvertes. Et on les exposait, etc. Et même si je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais jusqu'au XVIIe siècle, les premiers naturalistes de la Renaissance, que ce soit Ambroise Paré, par exemple, dont j'ai fait reproduire les deux dragons de son cabinet de curiosité, etc., tous les premiers naturalistes qui ont fait ces premiers bouquins sur une première taxonomie de zoologique, on va dire, croyaient aux dragons et ont reproduit des dragons. Mais croyaient aux dragons populaires. Donc, on y reviendra après. Et la deuxième chose, c'était l'aviation. C'est que ce qui est très intéressant sur quoi je travaille actuellement, mon propos depuis 20 ans est de travailler sur du mémora. Voilà. Moi, je suis sémiologue, je travaille sur les discours liés au surnaturel. Je ne fais pas de différence entre les discours des folkloristes du 18e ou du 19e ou les discours d'Eliphas Lévy, de Papus ou des occultistes du 19e et du 20e siècle. Tous ces discours sont pour moi un matériau très intéressant qui dit quasiment la même chose, sauf que le discours des sciences est venu apporter ses propres merveilles. Et en l'occurrence, je travaille sur les récits d'OVNI, les récits de gens qui disent avoir vu des rencontres, etc., des objets, etc. Bon. Et je les relis aux récits que j'ai de chroniques du 15e, du 16e siècle, de ce que l'on appelait les dragons, c'est-à-dire ces bolides qui arrivent, il y a une chronique par exemple d'une abbaye de 1622, et donc où les gars racontent, tout d'un coup ils étaient dans le monastère, et puis il y a un truc qui tombe, un bolide qui tombe sur le monastère. Il tombe, tout part en flamme, donc c'est ce qui mérite d'être notifié, et contre toute attente il repart. Donc, bah évidemment, on va interpréter ça avec les outils de l'époque, c'est le diable. Et dans les dragons populaires, on a les vouivres. Et ces vouivres, c'est pour ça que j'ai choisi de faire aussi le légendaire de la Suisse, c'est que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on a énormément de témoignages d'apparitions de vouivres ou de serpents ailés en Suisse. qui sont d'ailleurs repris par les naturalistes de l'époque, ces premiers savants de la Renaissance et ceux qui les ont suivis. Et alors, les descriptions que l'on a, la vouivre, c'est quoi ? La vouivre, c'est un dragon populaire. Alors, les voilà, les dragons populaires. Ils sont beaucoup plus petits que les autres. C'est le basilic, c'est la vouivre. Le basilic, il est déjà là dans la Bible. Il est traduit par les traduit le Régulus, le petit roi. Donc, on lui met sa petite couronne. Et c'est un serpent ailé. Et la vouivre a pour particularité d'être un serpent ailé avec des écailles assez dures et au milieu du front, une escarboucle lumineuse qui est comme un œil. Et en tout cas, on ne sait pas si elle va remplacer ou pas son œil. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est qu'elle envoie un faisceau lumineux qui lui permet de se diriger dans la nuit. Et des témoignages de vouivres, on en a beaucoup. Parce que moi, je ne travaille, je ne travaille que sur le Mémora, le conte. Il était une fois, le Mémora. Il est daté, et ensuite on a la légende qui commence à s'évanouir un petit peu. Moi, je travaille que sur le Mémora. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ces dragons sont quelqu'un d'aujourd'hui, quelqu'un d'aujourd'hui qui voit passer quelque chose dans le ciel, un objet non identifié. Alors, je porte pas de jugement, je suis pas dans la vérité, je suis dans la valence, dans la validité. C'est valide. Donc, qui verrait passer aujourd'hui, donc qui donnerait un témoignage, il y en a plein pour dire j'ai vu, voilà, il y avait tant de lumière, etc. Hein, il dit c'est un ovni. C'est un ovni parce que aujourd'hui, le merveilleux est dans la technologie. Et elle a porté son propre merveilleux. La même personne, il y a 4 siècles, qui voit le même type de phénomène, ou qui croit voir le même type de phénomène, dit c'est un dragon. Et effectivement, ces dragons, ils ont le phare au milieu du front, ce sont des formes d'objets volants, entre guillemets, non identifiés. Et c'est une de mes prochaines publications, là je travaille là-dessus depuis maintenant 2 ans, le parallèle entre les témoignages de gens qui ont vu, pareil pour les lutins, c'est exactement la même chose, ils décrivent les mêmes trucs, sauf que, eh ben, évidemment, chacun va interpréter avec les matériaux et les outils de son époque. Et du coup, ne va plus, on va dire, c'est un extraterrestre, c'est un lutin, c'est un... Et voilà, c'est tout.
Je voulais vous demander, puisque vous avez notamment donc Xavier qui a représenté un dragon, Fabrice donc qui les décrit largement, toi aussi tu as décrit des dragons. Quand on est justement écrivain ou illustrateur, il faut bien se faire une représentation de l'animal avant de le décrire par des mots ou par des images. Où est-ce que vous avez pris vos références pour les imaginer, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu pareils, les dragons qu'on voit à l'heure actuelle dans la fantasy. Ou bien est-ce que vous avez essayé de vous démarquer par rapport à l'image qu'on en voit dans un certain nombre de films ou d'écrits récents ?
Moi, en l'occurrence, non, parce que justement, c'est cette imagerie-là qui me plaît. Donc, mon cas est un petit peu particulier, parce que c'est comme les personnages, j'ai du mal à me les représenter physiquement. Je les fais parler, en général, c'est comme ça que je construis mes personnages, et en leur donnant des motivations, évidemment, hein. C'est vers quoi ils vont aller au cours de leur aventure, et puis ce qu'ils disent, comment ils réagissent dans un dialogue, hein, quelles sont leurs émotions, est-ce qu'ils sont plutôt enclins à aller vers la colère, etc., plutôt qu'une une description physique. Et je me suis rendu compte, comme les dragons dans la trilogie des Lamia aussi, pour certains d'entre eux, et puis dans les dragons de la Cité Rouge, comme je les fais parler, finalement, ils deviennent des personnages à part entière, et des personnages agissants, des personnages dialoguants qui ont des relations en fait humaines entre guillemets très fort avec tous les personnages. Donc je mets du temps en fait à me les représenter, et puis à un moment je dis bon, là ça y est, j'ai écrit le premier jet ou j'ai avancé, peut-être falloir que je dise il est de quelle couleur il est, quelle est la taille de ses ailes. Donc c'est plutôt une impression générale, et quand vient ce moment là finalement je sèche un peu, je me rends compte que j'ai une silhouette dans la tête, et puis là je commence à feuilleter des bouquins d'illustration contemporaines. Et où je vois des illustrateurs tellement doués que ça me donne même des idées pour faire avancer la chose. Alors là, il se passe un truc vraiment chouette avec les dragons de la Cité Rouge, c'est qu'un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Adrien Floche, qui fait les naufragés d'Ithaque avec Arleston, a décidé d'adapter le roman en bande dessinée. Il s'y est mis, il m'a envoyé les premières planches il y a quelques mois de ça déjà, et j'ai vu les premiers personnages apparaître dans l'histoire. Hein, il suit le même plan, et puis le dragon. J'ai dit, ah, putain, c'est mon dragon. Alors c'était pas le mien, c'était pas le mien, mais c'est un dragon qui est même mieux que le mien.
Alors moi je fonctionne véritablement à l'opposé, puisque comme je suis illustrateur, j'écris également pour adultes. Là j'ai lancé une saga d'Heroic Fantasy, et dans le volume 2 il y a énormément de dragons, et c'est complètement l'inverse pour moi, c'est-à-dire que je fonctionne toujours par dessiner des scènes, donc je représente une dizaine de tableaux par scène, et ensuite je vais les voir évoluer dans mon esprit, mais très physiquement justement, et ensuite je décris des scènes que je vois. Mais avant tout, en fait, je le représente d'abord visuellement pour ensuite raconter l'histoire avec ces personnages-là. Donc c'est vrai que c'est un parcours à l'opposé, finalement. Mmh. Mais je m'inspire effectivement beaucoup de l'imagerie actuelle. Déjà parce que je pense, vis-à-vis des lecteurs, je pense qu'en lisant ton livre, s'il n'y a pas de description, le lecteur se fait déjà la description qui est sans doute très proche de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ensuite, moi, je modifie en fait l'anatomie du dragon en fonction de ce qui va être utile par rapport à l'histoire, en fait. Pas du tout une analyse historique, en fait, de l'anatomie du dragon, mais plus utilitaire, on va dire. Donc aussi bien, comme tu disais, s'il est méchant, gentil, il va avoir des traits physiques, mais aussi sur les différentes capacités dont il va devoir faire preuve au fil du roman, en fait.
Ouais. Je crois que les dragons, ils jouent encore une fois un rôle souvent symbolique dans une histoire. Tout le monde voit à peu près ce que c'est. Alors on peut s'amuser à les représenter de façon totalement différente, aller à contre-courant de ce que les gens ont en tête. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Enfin, en tout cas, moi, c'était pas mon propos dans ces livres-là. Si j'avais voulu le faire, je pense qu'il y a des choses intéressantes à creuser par rapport aux dragons orientaux, des choses comme ça, où bon, on peut jouer sur les tailles, les couleurs. Mais enfin, globalement, le dragon, c'est déjà un animal qui vole, souvent quand même un animal qui crache du feu. Bon, déjà par rapport à ses fonctions, ça induit des choses sur la représentation qui va être souvent la même. Après, on peut jouer sur les tailles. Moi, j'ai eu pas mal en tête. Enfin, ça m'a longtemps un peu obscurci l'esprit les parties de Donjons et Dragons, comme son nom l'indique, où il y avait donc des dragons. Parce que et ça a été repris après dans la série des romans Dragonlance, il me semble. C'est-à-dire que dans Donjons et Dragons, il y avait des dragons gentils et des dragons méchants. Et il y avait des dragons donc plutôt chromatiques. Donc il y avait des dragons de différentes couleurs. Et puis après, il y avait des dragons d'or, d'argent, de bronze, tout ça. Il me semble, hein, je ne sais même plus en fait, mais c'est un peu quelque chose comme ça. Moi, ce qui me semble intéressant au niveau du potentiel romanesque du dragon, c'est que c'est une créature qui peut être à la fois synonyme de brutalité, de destruction. C'est, comme tu disais, un peu le feu tombé du ciel, quoi. Bon. Et puis, ça peut être aussi la sagesse immémoriale, quelque chose dans le regard, dans l'âge. Hein. Les dragons, souvent, ils sont très vieux, donc on suppose qu'ils ont accumulé beaucoup soit de sagesse, de connaissance ou d'autres choses. Certains peuvent parler, pas tous. Alors moi, justement, dans mes romans, en fait, bon, il y a tout un truc qui est un petit peu compliqué sur une sorte de monde des esprits, mais en gros, l'esprit, c'est-à-dire l'essence, vraiment l'âme des dragons, elle est partie, elle les a quittés, elle est dans un monde des esprits, une sorte de monde parallèle. Et les dragons, l'enveloppe charnelle des dragons qui restent sur Terre, c'est juste des gros reptiles, quoi, un peu brutaux, et on ne peut pas en faire grand-chose. Quand on veut en faire quelque chose, il faut aller chercher leur âme d'abord et leur rendre leur âme, quoi, leur rendre leur nature. Voilà. Moi, j'aime bien dans cette créature-là la dualité, brutalité, sagesse, quoi.
Marie-Charlotte, là on a abordé largement l'image du dragon dans la fantasy avec vraiment toute la représentation récente. Est-ce que tu as eu des éléments là-dessus? Est-ce que tu sais d'où vient vraiment cette représentation toute récente?
Alors, moi, dans ce livre qui sortira bientôt, donc ne le cherchez pas. Je fais comme dans tous mes livres, d'ailleurs, tu le sais, je ne travaille que sur des images que je fais reproduire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune image de fiction. Donc là, j'ai travaillé sur les enluminures, les miniatures du bas Moyen-Âge jusqu'à la fin du Moyen-Âge à peu près. Et ensuite, j'ai reproduit, parce que je trouvais ça, enfin, j'ai fait reproduire, parce que je trouvais ça vraiment très beau et très étonnant, tous les dragons qu'on trouve dans les traités, dans les premiers traités d'histoire naturelle et dans les bestiaires. Voilà. Et donc, j'ai essayé de travailler sur une image du dragon à partir de sa représentation. Alors, effectivement, la première représentation, l'histoire de l'imprimerie, c'est l'histoire de l'imprimerie religieuse, bien longtemps. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de dragons. Et à partir du moment, alors je dis imprimerie, et je suis très fatiguée parce qu'évidemment on commence avec des, quand je parle des enluminures, je ne parle pas de l'imprimerie et on est bien avant. Le premier dragon que j'ai trouvé, qui est un très beau dragon de serpent enroulé, il date du 9e siècle, voilà. Donc je l'ai fait reproduire, il y en a deux et il est assez étonnant. Et je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, je suis super fatiguée. C'était quoi ta question ? Voilà, alors comment ils sont ces dragons-là ? Donc de toute façon, antiquité, ce sont de grands ophidiens, ce sont des gros serpents. On les appelle dragons, on les appelle serpents, dans le même texte, ils ne sont pas très très déterminés. La seule chose qui reste valable, c'est que ce sont des êtres gigantesques. Et que ce sont la première fonction du dragon, c'est l'être cosmique. Et je pense que c'est exactement ça, quoi, ce que tu disais. C'est-à-dire, il représente toutes les forces de la nature et des forces pas méchantes. Il est pas méchant le volcan là qui est en train de d'enquiquiner la vie des avions. Voilà. Mais en même temps, il y a des forces qui nous dépassent. Et je fais une parenthèse d'ailleurs parce que parmi toutes les interprétations du dragon, celle que j'ai fait mienne est celle de Jacques Le Goff qui pense qu'effectivement le dragon symbolise une nature qui va être civilisée. Donc le fait de tuer le dragon, c'est aussi démarrer une civilisation. Il a travaillé sur le dragon de Paris, le dragon de Saint-Marcel, et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'histoires de dragons tués, de saints qui tuent des dragons, à commencer par Cadmos et la fondation de Thèbes, et donc au moment où on va civiliser une terre. En fait, c'est comme si le dragon représentait... Le dragon qui était aussi dans l'Antiquité un génie topique, un génie du terroir, en tant que serpent, bien entendu, et ben voilà, donc quand on se réapproprie, quand on veut civiliser une terre et transformer la nature en culture... Mais à ce moment-là, on tue ces forces-là protectrices, ces êtres du terroir, ces forces protectrices. Donc, il est gigantesque. Et jusque dans l'encyclopédie, l'article qui concerne l'encyclopédie Diderot d'Alembert au 18e, l'article qui concerne le dragon dit ça, dit OK, c'est un être vraisemblablement fabuleux, mais ce qu'on sait, c'est que c'est le plus gros animal du monde. Voilà. Ensuite, le dragon n'a pas d'aile au départ. C'est le serpent qui est ailé. Le dragon, il a des pattes, il n'en a pas. Et puis on arrive finalement au début du XVIe siècle avec une acceptation dans les livres de nos savants, de nos premiers savants, où alors on a du dragon ailé, du dragon aptère avec des pieds, du serpent ailé, du serpent gigantesque non ailé, et tout ça fait partie, tout ça c'est du dragon, du draco, etc. Alors après le je pense que l'imaginaire va se fixer sur il semblerait quand même que la découverte des premiers, je suis en train de chercher son nom en plus, que je connais, voilà. Quand Cuvier aborde le premier livre de Cuvier, qui va découvrir, qui va le premier mettre en avant les premiers sauriens préhistoriques, et il fait dans son premier livre un chapitre sur les dragons quand même, parce qu'il se rend compte que ce qu'ils viennent de, de mettre à jour et ce qu'ils vont baptiser. D'ailleurs, il va baptiser un petit reptile, etc., qu'il va appeler dragon. Mais les crocodiles, on les appelle dragons aussi. Voilà. Et donc, je pense que la découverte de Cuvier, la reconstitution des premiers sauriens, va être pour beaucoup dans l'image du dragon et surtout pour beaucoup dans notre imaginaire. Parce que, franchement, à partir du moment où on sait qu'il y a eu ces animaux préhistoriques, qui évidemment n'ont pas connu l'homme, puisqu'il y a des millions d'années qui séparent l'arrivée de l'homme de ces animaux. Mais attendez, ils sont encore plus merveilleux que les dragons. Mais c'est évident. Quand on les voit représentés, ils nous font encore plus rêver que les dragons. Ils étaient là, ils occupaient cette terre bien avant nous, des millions d'années avant que l'homme n'évolue et arrive sur cette terre. Mais les dragons à côté, c'est de la gnognotte. Enfin, franchement, ils sont... Voilà. Donc, pour le coup, il y a eu une espèce d'agglomérat, je ne sais pas, entre l'image du gros serpent dragon qu'on retrouve dans des mythes et qui a une vraie fonction mythique au niveau de la civilisation, là pour le coup je pense, et puis ces animaux préhistoriques fascinants, voilà, qui auraient pu faire, ça a dû être fait, moi je ne connais pas trop bien la science-fiction, tout ça, mais ça a dû être fait que les dinosaures dirigent la Terre, enfin je ne sais pas, qu'ils soient restés là, et pas nous, qu'il n'y ait pas eu cette énorme comète qui vienne, si tant est que ce soit elle, voilà. Donc je pense que tu vois, cette image, elle est... Alors, dans les enluminures, on les voit, hein, les petits dragons, c'est des petits... Ils ressemblent aux basiliques, moi je trouve, c'est beaucoup des basiliques. Les basiliques, c'est des œufs de coq. Vous savez, parce que c'est des basiliques, peut-être. Voilà, si vous avez des coqs chez vous, si vos coqs pondent un œuf, faites très attention. Car normalement, dans l'œuf de coq, vous allez voir bientôt un petit serpent qui va sortir, et c'est un basilic. Donc ce serpent, au bout d'un certain temps, il va lui pousser des ailes. Il va avoir une espèce de truc sur la tête, une petite couronne, parce que ça fait comme la crête du coq. Voilà. Et autant les dragons sont assez gentils, on les tue mais parce qu'ils dérangent, mais on n'a aucune histoire. Bon, ils mangent les gens un peu, mais en même temps c'est qu'ils ont faim. Hein. Ça, on peut pas non plus. Nous on mange les vaches et tout ça. Donc voilà. Et donc ce petit basilic est très néfaste. Et donc il va aller se mettre dans un puits parce que ça ne vit que dans les puits, les basiliques. Et il tue du regard. Voilà. Donc le basilic tue du regard. Et en 1922, on a curé un puits à Marseille. Le puisatier est descendu, il est mort. Et les gens du quartier ont fait en disant, il y a un basilic. Le basilic du Grand Puits de Marseille. Donc ce sont des connaissances qui ont dépassé, qui étaient encore, enfin ce sont des croyances qui étaient encore là au XXe siècle, les croyances de ces petits dont tu parlais tout à l'heure, toi tu disais les dragons populaires, c'est ça. C'est des dragons de plus petite taille. Kircher dit qu'ils habitent dans les entrailles de la terre et que ce sont des espèces d'anomalies. Voilà, c'est des animaux anomaliques. Voilà, ils sont, ils se cachent dans les entrailles de la terre et ils ressortent et ils ont une haleine soufrée, donc ils vont cracher du feu, etc. Voilà. Donc je crois vraiment qu'il y a ces deux images qui se sont liées, qui font du coup du dragon un animal très attachant. Vous savez, moi je les crois super gentils, les dragons.
Alors une dernière question. Vous avez donc décrit des dragons que vous avez mis en scène, voilà. Donc on imagine bien les scènes de combat, comme tu disais, les dragons qui volent et qui te permettent de passer tes personnages en trois dimensions, tes scènes en trois dimensions. Mais vos dragons, ils dorment, ils mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent? Où ils dorment?
La question de l'alimentation était un vrai problème. J'ai beaucoup de mal à les nourrir correctement. Tu vois, je sais pas si vous avez lu cette série de Nomi Novak, je crois, sur les dragons à l'époque des guerres napoléoniennes, hein, entre le royaume d'Angleterre et l'empire napoléonien. Et les batailles ont lieu, en fait, beaucoup entre dragons. Et elle raconte assez bien, même très bien, le voyage que fait le personnage principal avec son dragon à bord d'un navire. Effectivement, c'est très compliqué chaque jour de faire tenir le dragon sur le pont du trois-mâts et puis de lui trouver à manger en quantité suffisante. Parce qu'en plus, ils sont dans un milieu un peu réduit que peut être un navire. Donc, c'est rapidement assez dégueulasse.
Mais ça mange quoi, alors? C'est carnivore? Ça mange des yaourts?
Moi, les miens sont carnivores, en tout cas. Voilà.
C'est pas une question. En fait, c'est une question qu'on développe très peu. Sur les détails anatomiques, même dans les films, on se pose pas trop la question non plus. Sur les héros, il y a certaines scènes qu'on zappe sur leur vie de tous les jours. Et c'est un peu pareil sur les dragons. Si c'est pas nécessaire à l'histoire, en fait, on va pas détailler. Si après, on peut voir dans Cœur de Dragon, par exemple, où le dragon qui est pourtant sur la version filmée, qui est pourtant un gentil, va attaquer les troupeaux et il va être haï pour ça. Bon, ben voilà, là, ils ont eu besoin de mettre ce détail-là, mais quand c'est pas utile, on n'en parle pas, quoi, en fait.
Bah, oui, ils sont résolument carnivores, hein, je crois, on est tous d'accord. Et après, ils peuvent avoir un métabolisme plus ou moins lent et se contenter d'une chèvre de temps en temps. Je pense que ça serait assez marrant d'imaginer... Dragon, comme ça a été fait dans Nemo avec les requins qui essaient de devenir végétariens et qui forment une association. Bonjour, alors voilà. Moi, j'ai pas brûlé un village depuis 2 mois. Ah, c'est bien, bravo. Mais globalement, ils peuvent pas trop s'empêcher, je crois. C'est dans leur nature. C'est vrai qu'on règle pas forcément toujours ces questions un peu, hygiéniques. Hein, voilà. Parce qu'effectivement, sur un bateau, enfin, moi, j'ai pas lu, mais. Je suppose qu'ils font des gros caca, hein, par exemple. Et ça, c'est assez embêtant. C'est pour ça que dans les eaux et tout, c'est pas pratique. Il vaut mieux les laisser en plein air. Et voilà. Sur une île déserte, le dragon est très bien. Je pense qu'il fait ses besoins dans un coin. Et puis, il mange des chèvres sauvages. Enfin, c'est parfait, quoi.
J'imagine la taille du bac à litière pour le dragon, par exemple.
Chérie, c'est toi qui changes la litière aujourd'hui. Oh non. Faut que je prenne la remorque et tout. Enfin non, c'est l'enfer.
Et ils dorment où ?
Oh, ils dorment dans l'herbe. Enfin, oui, le mien, ils vont pas trop, ils sont pas à l'hôtel. Hein.
Les miens, en tout cas, ils protègent le Arcane protège le héros pendant la nuit. En fait, il dort contre lui, sous son aile. Voilà. Au chaud.
Bon, bah écoutez, ça va nous servir de conclusion parce que je vois que le temps qui nous est imparti s'est écoulé. Donc, en espérant qu'on ait tous un dragon protecteur. Sous l'aile duquel on puisse dormir, mais qu'on n'ait pas la litière à changer. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, j'ai promis de dire quelque chose aux membres de la cultissime soirée de l'Eurovision des Imaginales. Voilà, donc j'ai promis de me mettre minable et de vous dire que c'était l'Allemagne qui avait gagné.
Ben voilà, bravo, bravo pour l'Allemagne. En tout cas, merci aux auteurs présents. N'hésitez pas à les rencontrer sous la bulle du livre et à aller lire leurs livres, enfin, prendre leurs livres, les faire signer. Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Non ? Oui ? Non, moi j'ai pas regardé l'Eurovision hier soir, j'étais au concert du Naël Band où il a fallu résoudre aussi un certain nombre de petites questions pratiques et qui étaient absolument génialissimes avec une ambiance de fou et ça vaut, voilà, c'était dragonesque. Voilà, en tout cas merci de votre attention.